Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région.
Top Music.
Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast « L'essentiel, c'est la santé ». Avec nous dans le studio, le professeur Jean Sibilia, doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue au CHU de Strasbourg. Alors docteur, pour nous parler tout d'abord de la situation de l'épidémie de coronavirus, qu'est-ce qu'on peut dire? Progression de l'épidémie actuellement sur l'ensemble du territoire alsacien?
Une progression nationale surtout. Je crois que ce qui change la donne par rapport au printemps, en mars, avril, mai, c'est la diffusion nationale extrêmement importante du virus. Au moment du confinement généralisé, c'était surtout l'Île-de-France et le Grand Est, je vous le rappelle. Maintenant, c'est l'ensemble de la France qui est soumise à l'épidémie. Il se fait que dans le Grand Est, en particulier en Alsace, les choses sont mieux qu'ailleurs, il faut le dire. Peut-être parce qu'on a été en prévention, avec de la pédagogie de la prévention qui a permis quand même de limiter la contamination. On a été touché de plein fouet au printemps. On a été peut-être un peu plus précautionneux qu'ailleurs. Donc on est plutôt bien aujourd'hui, mais rien ne prédit. Il faut rester très très vigilant d'une éventuelle... rien ne permet d'éviter une extension de la contagion, même dans notre région et dans notre métropole.
Oui, la seconde vague avance doucement en Alsace.
Elle avance doucement, on voit les chiffres, ça reste extrêmement modeste dans le Haut-Rhin, ça progresse beaucoup plus dans le Bas-Rhin et dans la métropole strasbourgeoise.
Ça devient un petit peu inquiétant sur Strasbourg ?
Ça progresse. Ça a stagné pendant quelques semaines, là, il semble que les chiffres en matière de nombre de patients infectés pour 100 000 habitants, vous savez qu'il y a plusieurs indicateurs, il y a des indicateurs qui restent encore très paisibles, qui sont ceux de l'admission en réanimation, ceux de l'admission à l'hôpital, mais clairement on voit avant que ces indicateurs bougent, on voit bouger d'autres indicateurs qui sont le nombre de malades touchés. Et là, ça progresse indiscutablement.
Oui, parce qu'il y a eu un pic mi-septembre. Ensuite, ça a baissé un peu. Et là, ça remonte.
Ça remonte.
Donc, restons vigilants.
Restons très vigilants. Il faut être humble. Cette épidémie nous a appris qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans la diffusion du virus. Les personnes, les gens, le comportement des gens, les rassemblements, donc les vacances, les réunions, les rentrées universitaires, l'école, tout ça influence et c'est difficile à paramétrer. Donc il faut vraiment rester très humble et très prudent, même si, je le répète, on est plutôt bien loti aujourd'hui dans notre région.
Oui, attention au brassage des populations avec les vacances. Qu'est-ce que vous pensez des dernières annonces d'Emmanuel Macron? Le couvre-feu pour les villes les plus touchées, est-ce que c'est une bonne idée?
Je pense qu'il faut prendre des mesures. Indiscutablement, c'est des mesures nécessaires. On n'est pas les seuls à le prendre. Rappel, et on oublie, mais regardez le Québec, pour aller assez loin chez nos cousins canadiens, le Québec a été confiné. Il y a un confinement généralisé du Québec. On a confiné des villes, Madrid, Berlin, même à côté, en Allemagne, alors que la diffusion du virus est moins grande que chez nous, l'Allemagne reconfine des villes partiellement comme Berlin. L'Angleterre, enfin plein de pays au monde ont dû confiner, reconfiner, alors de façon évidemment non généralisée, c'est l'objectif. Et je crois qu'il y a deux trucs absolument certains. La première chose certaine, et plus personne ne peut le contester, ce virus, qui est un virus dangereux, quoi qu'on dise, diffuse à nouveau. On a eu une sorte de regain d'optimisme à la fin des vacances, en pensant, certains l'ont dit, totalement à tort, et je m'étais insurgé contre cet optimisme qui était disproportionné de penser que tout était fini. Certains l'ont dit dans le sud de la France, c'était une aberration de le dire. Aujourd'hui, on sait que ça circule et que c'est un virus qui reste toxique pour certaines populations. Et la deuxième chose que l'on sait, si l'on ne fait rien, il va être très difficile de ne pas prendre des mesures très douloureuses de coercition d'ici quelques semaines. Et il faut qu'on arrive aux vacances, je crois, de Noël, plus apaisées. Donc, s'il y a des mesures à prendre, il faut les prendre maintenant. Et ça doit être des mesures, c'est un élément simple, éviter finalement que malheureusement les gens se rencontrent. C'est un virus qui n'existe pas s'il n'y a pas de transmission interhumaine. S'il n'y a pas de contact interhumain, le virus n'existe pas. Il ne peut pas se transmettre. Donc, il faut qu'on limite au maximum toutes les zones d'interface, comme on dit, de rencontre entre les humains, sans casser évidemment le lien social, en permettant quand même une vie la plus normale possible, parce qu'on a besoin de ça pour vivre. On ne peut pas vivre sans contacts sociaux, évidemment.
Dans le discours du président, c'était clair, les rassemblements familiaux ou amicaux sont clairement pointés du doigt. On a invité à restreindre nos rencontres, pas plus de 6, c'est la règle des 6, à table, dans la rue, au restaurant.
Oui. C'est indispensable. Tout fait partie d'un même dispositif. Aucune mesure seule n'est efficace. Il faut combiner les mesures. Et je le répète, c'est la combinaison des mesures qui limite les rencontres interhumaines qui permet de transmettre le virus. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, il faut essayer d'être, mettre le plus de pédagogie possible. Il y a des choses que l'on peut interrompre et des choses que l'on ne peut pas interrompre, sachant que de toute façon, on ne veut plus faire de confinement généralisé. Donc, il faut choisir. Et il y a des choses que on ne peut pas interrompre. Les transports, je pense, l'accès aux grandes surfaces. Il faut se nourrir, il faut aller acheter des biens de consommation quotidienne, c'est indispensable pour vivre. Et il faut, pour certains travaux, travailler en présentiel. Je pense aux gens de la santé qu'on va re-saluer, je le fais parce que c'est mes proches et Dieu sait qu'on a été touchés. On ne peut pas ne pas les travailler, mais on n'est pas les seuls. Hein. Les caissières dans les supermarchés, les gens qui ramassent les poubelles, les forces de l'ordre, etc., ils ne peuvent pas ne pas les travailler. Donc ça, on doit le préserver absolument et on ne peut pas le contraindre. En revanche, là où on peut porter le fer, c'est là où ça n'est pas indispensable. Je suis évidemment profondément désolé. On va nuire à la vie culturelle, on va nuire à la vie conviviale du quotidien dans les restos, dans les bars, même dans les boîtes de nuit. Bien sûr, on va nuire à ça. On va nuire aussi un petit peu à la rencontre familiale. Et on a mis le président parler d'une règle des 6. Alors, évidemment, règle des 6, règle des 8, règle des 10, règle des 12. Pourquoi la cote de 6? Mais vous allez me dire, pourquoi pas la cote de 10? Mais c'est pas ça la question. La question, c'est que on veut conserver de la vie familiale et sociale. Il faut la conserver. On doit, parce que ça fait partie du bien-être et de la santé d'ailleurs. Hein. L'OMS, je fais juste une petite parenthèse intéressante, l'OMS a déterminé, il y a bien longtemps, que la santé des hommes, c'était pas que la santé du corps, mais c'était la santé aussi de l'esprit et la santé de la société. Donc vous voyez, on a besoin de cette vie familiale, mais il faut la restreindre au maximum. Et même en société, quand vous voyez, moi j'ai des parents qui ont plus de 80 ans, c'est compliqué, on a envie de les embrasser, on a envie de les serrer dans les bras, mais il faut essayer de faire de telle sorte que le virus ne se transmette pas. Donc je crois que c'est logique, les annonces du président étaient très logiques. On met de la coercition par un couvre-feu, peut-être que le terme couvre-feu est fort, trop fort, peut-être, parce que c'est un terme guerrier, mais c'est aussi une façon de montrer l'importance des choses, peut-être aussi, il faut aussi le prendre comme ça. Mais il y a eu beaucoup de recommandations qui sont celles qu'on vient d'évoquer, recommandations de faire fonctionner le plus de choses indispensables, transport, entreprise, la vie sociale, mais de limiter tout ce qui n'est pas indispensable et qui reviendra. On retournera au spectacle, on retournera au restaurant. C'est dur, je le comprends bien, pour les gens qui travaillent dans l'événementiel, les gens qui travaillent dans les restaurants, dans les bars. Je comprends, et franchement, on doit être avec eux de tout cœur, mais on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, je crois. Sinon, on va dans le mur, c'est clair.
Oui, le Covid, c'est la maladie de la convivialité aussi. Hein.
Mais c'est intéressant d'ailleurs, je vais faire un petit commentaire philosophique, mais ça doit interroger. C'est un virus qui empêche les gens de communiquer. Si vous réfléchissez à ce signal de l'univers, c'est un signal grave en fait. Il faut peut-être l'interpréter aussi et le surmonter et faire quelque chose ensemble de ce signal-là. C'est terrible en fait. C'est un virus qui tue peu, c'est vrai. Ça tue beaucoup moins qu'Ebola, beaucoup moins que des virus, même que la dengue, que la fièvre jaune. La fièvre jaune, c'est 40% de décès. L'Ebola, c'est 50% de décès. Là, on est à 0,3-0,5. Ça tue peu, mais ça nuit et ça bloque quelque chose de fondamental qui est le lien social. Et ça crée une inquiétude, ça crée une morosité, une inquiétude parce qu'on touche au lien social. Il faut le méditer, mais il faut être capable de le réfléchir pour qu'on ait, vous savez, cette résilience collective. Alors, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais il faut serrer les coudes. Moi, je crois que les mots du président, je crois qu'il faut les entendre. C'est on ne vaincra qu'ensemble en se serrant les coudes. Et c'est la vérité. On peut le prendre comme on veut. Ne soyons pas égoïstes. Essayons de faire le mieux possible ensemble, même si on n'est pas parfait, sans se culpabiliser, sans être infantilisé. C'est très important.
Actuellement, pas encore de couvre-feu en Alsace, mais tout de même, des restrictions de la part de la préfète du Bas-Rhin. Et dorénavant, sur tout le territoire, interdiction des fêtes privées. Il y a aussi un plan anti-Covid sur l'Eurométropole de Strasbourg. Docteur Sibilia, vous y participez. En quoi consiste concrètement ce plan anti-Covid?
La philosophie de ce plan est à mon sens, vraiment, entre guillemets, intelligente, au sens où elle stimule la responsabilité de chacun, et c'est important. Alors bien sûr, tout le monde, 100% de la population, ne trouvera pas un niveau de responsabilité suffisant. Mais acceptons ça, acceptons qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas ces choses-là. Mais ce que fait aujourd'hui la métropole, avec beaucoup d'engagement, c'est faire de la pédagogie et aider au dépistage. Et je le répète, dans une action, et c'est très important, concertée entre l'ARS, la préfecture et les collectivités territoriales et la municipalité. Et je pense que c'est très important que là aussi, la tête de l'État et le local s'allient en fait dans cette prévention. Et en fait, l'idée, c'est d'expliquer aux gens. D'expliquer, et notamment aux plus jeunes. Parce que c'est plus compliqué. Quand on a 20 ans, on a une forme d'insouciance liée à la jeunesse. Et c'est très bien, heureusement. Et c'est une qualité. Mais cette insouciance, il faut l'entendre. Mais il faut aussi essayer de compenser cette insouciance par des messages pédagogiques très simples. Expliquer les choses. Et la métropole a mis en place des actions de pédagogie, des actions de dépistage. Et il faut continuer. Peut-être, en étant très optimiste, on peut estimer que notre situation, qui actuellement est bien sûr inquiétante, mais qui n'est pas au niveau de l'inquiétude de beaucoup d'autres métropoles, 8 ont été mis en garde et seront en couvre-feu. Nous ne sommes pas dans ces 8-là. C'est peut-être parce qu'on a fait preuve de pédagogie et d'esprit d'esprit collectif et d'esprit citoyen. Continuons sur cette ligne-là, ne relâchons pas cet effort.
Pour parler des jeunes générations, vous êtes doyen de la faculté de médecine, en contact direct avec les jeunes. Avoir 20 ans en 2020, oui, on peut dire que c'est difficile, dur de mettre sa vie sociale de côté quand on est jeune, dur de ne pas faire la fête, des universités fermées dans certains secteurs, des cours uniquement en distanciel, c'est dur.
Et là aussi, hein, pas reprendre les mots du président, hein, mais bien sûr, je ne suis pas là pour reprendre ces mots-là, mais avoir 20 ans en 2020, c'est presque un jeu de mots, mais c'est vrai. Je crois que c'est une année très compliquée pour les jeunes générations. Je les comprends mille fois. J'ai des neveux et un fils qui a 17 ans. Mes neveux sont jeunes et je comprends, je discute avec eux et avec mes étudiants, évidemment, pour essayer de comprendre leur inquiétude, leur désarroi et la façon avec laquelle ils perçoivent les choses actuelles. Pour dire des choses extrêmement simples, c'est que d'abord, moi, je suis frappé par le niveau de responsabilité, de maturité quand même, par l'immense majorité d'entre eux. Enfin, l'immense majorité, pas tous évidemment, mais beaucoup ont compris, des proches, des étudiants, nos élus à la faculté, à l'université ont parfaitement compris, nos élus de l'amicale, nos membres de l'amicale de médecine, hein, l'amicale fait beaucoup, ils ont parfaitement compris et ils sont en pleine responsabilité. Donc franchement, ne les montrons pas du doigt, faut pas faire ça. Je veux dire, et bien sûr, ne pas mélanger insouciance et irresponsabilité. On peut avoir de l'insouciance et une forme de légèreté tout en étant responsable. Et c'est à ça qu'il faut qu'on amène nos jeunes. Voilà, qu'ils aient conscience que, ben, il faut mettre un peu en stand-by, voilà, le côté festif non protégé. Ne pas être dans la provocation parce que ça sert à rien. Parce que c'est pas pour eux, au fond. Et ça que beaucoup ont compris. Moi, je l'ai vu. Parce que c'est eux ne sont pas menacés ou quasi pas. Vous savez, les formes graves chez nos jeunes sont exceptionnelles. Elles existent malgré tout, mais elles sont très rares. Mais c'est protéger les autres. Et je crois que ça se comprend, ça. Ça s'explique et ça se comprend.
Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes un peu sceptiques, hein, qui disent on en fait trop de restrictions, le taux de mortalité du Covid n'est pas si élevé. Ce sont souvent des propos qui ressortent encore dans les conversations.
Ouais, je peux vous dire que le soignant, il est choqué par ces propos. Et je leur dis juste un truc, venez en réanimation voir ce que c'est un malade intubé, et vous verrez. Et puis il n'y a pas d'autre réponse à ça. Venez voir. Et je vous fais un rapide calcul, c'est un premier virus, un premier passage dans les populations de ce virus-là, même si il ne tue, c'est terrible de le dire comme ça, que 0,3 ou 0,5% de la population, mais un premier virus qui arrive dans une population immunologiquement naïve, qui n'a aucune défense contre ce virus, vous pouvez penser que plus de la moitié de la population sera touchée, et même si ça n'est que 0,5% de mortalité, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Les sceptiques, voilà, je les renvoie à ça. Si c'est dans leur esprit d'humanité, ils ne comprennent pas ça, et ne comprennent pas que ceux qui risquent de mourir, vont mourir, sont des gens âgés, des gens qui sont fragiles. S'ils n'ont pas cette vision respectueuse de ces gens-là et de ces faits-là, je leur demande simplement, s'ils n'y croient toujours pas, je les invite à venir en réanimation au CHU, voir ce que c'est un malade intubé infecté par un Covid.
Oui, le problème, c'est évidemment la capacité des hôpitaux. Les hôpitaux sont bien armés maintenant en cas de grosse deuxième vague?
Je vais être dur et direct, on n'est jamais armé pour faire face à un risque massif. Donc on est mieux armé qu'en mars-avril, mais on n'est pas armé définitivement pour faire face à des milliers et des milliers de malades infectés. Nos capacités de réanimation, on a beau pousser les murs, on a beau atteindre le niveau, c'est presque un petit joke, le niveau des Allemands, même si on compare pas complètement les lits, mais imaginons que nous ayons 10 000, 15 000, 20 000 lits de réanimation, bien sûr qu'on est capable de pousser les murs et bien sûr, on peut atteindre les 15 000 lits de réanimation, mais même si on a 20 000 ou 25 000, et alors, si on a 40, 50 000 malades qui nécessitent des soins intensifs et une oxygénothérapie par intubation, on n'y arrivera pas. Donc nos hôpitaux, de toute façon, ne sont pas dimensionnés. C'est comme ça, le système de soins hospitaliers n'est pas dimensionné pour faire face à une vague massive de gens qui ont une infection d'organes vitaux. Parce que c'est ça le Covid. Outre le fait qu'il tue le lien social ou qu'il essaye d'altérer le lien social, médicalement, c'est malheureusement un virus qui touche le poumon, le cœur, les vaisseaux et le cerveau. Entre autres, pas que, mais entre autres. C'est pas de chance. Et ça, ce sont des fonctions vitales et une altération grave de ces fonctions mène en réanimation. C'est pas de chance et mène beaucoup de monde en même temps, sur une courte période, au même endroit, qui est le soins intensifs, la réanimation. Et nos hôpitaux ne sont pas conçus et nos soignants sont pas assez nombreux. Mais on ne le sera jamais assez si on ne fait rien. Il faut éviter le nombre d'infections massives au même moment. Et on n'a pas d'autre choix que bloquer la circulation du virus, malheureusement, par ce qu'on appelle c'est pas très joli, hein, mais ces mesures de distanciation sociale, moi que je n'aime pas utiliser, je préfère distanciation physique, mais elles sont un petit peu sociales quand même. C'est le seul moyen, avant le vaccin et avant d'éventuels traitements, on peut l'espérer à terme, mais c'est le seul moyen qu'on ait aujourd'hui. C'est triste, ça m'embête, ça me fait pas plaisir, et ça crée une frustration, une forme d'inquiétude, mais on n'a pas le choix aujourd'hui.
Oui, on n'a pas le choix. Le manque de prise en charge des patients hors Covid, donc pendant la première crise sanitaire, ça a eu des conséquences dramatiques. Là, récemment, il y a eu un appel à ne pas oublier les autres malades. Il faut en prendre conscience.
Oui, alors je pense que la situation est assez différente. Hein. Au moment du printemps, en tout cas chez nous en Alsace, hein, plus qu'ailleurs, le fait qu'on était notre système était saturé par des malades Covid. Plus le confinement, les gens ne se déplaçaient pas, plus l'hypermédiatisation fait
et
que...
Et
la peur, évidemment, d'attraper le Covid à l'hôpital, hein, très clairement, a fait que les gens ne sont pas venus, même les gens atteints de maladies graves. D'ailleurs, ça reste mystérieux, ça sera très intéressant à analyser, c'est pourquoi moins d'infarctus du myocarde et moins d'accidents vasculaires cérébraux. C'est incompréhensible, hein, parce que ces gens-là, vous dites qu'ils ne choisissent pas. Si vous avez un accident aigu, vous êtes suffisamment gravement atteint pour aller à l'hôpital directement. Or, on en a vu moins. Donc ça sera très intéressant à analyser. Ça n'est plus exactement le cas maintenant. En tout cas en Alsace, pour deux raisons. D'abord parce qu'on a vécu ça, deuxièmement parce qu'il n'y a pas de confinement généralisé, et troisièmement parce qu'on est organisé différemment. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est prêt, mais c'est un vrai problème, parce qu'on est aujourd'hui confronté aux deux flux, au flux grimpant des malades Covid, qui pour l'instant n'encombrent pas nos services, mais ça peut venir malheureusement, et au flux de malades, avec ceux qui n'ont peut-être pas été très bien soignés au début de l'année, qui sont toujours là, qui doivent être opérés, en particulier, je pense aux malades qui n'ont pas eu l'opération en temps voulu, il y en a eu. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas chez nous, en Alsace, parce qu'on n'est pas aujourd'hui en situation de tension, mais malheureusement, si on ne fait rien, ça peut venir. Je ne l'espère pas, je souhaite évidemment tout l'inverse, et on doit être capable d'accueillir tous les patients. Il faut demander aux gens de consulter, ne vous laissez pas prendre par cette peur-là. Il n'y a pas plus de risque d'attraper le Covid à l'hôpital qu'ailleurs. L'hôpital est sécurisé, il ne faut pas hésiter s'il y a des choses graves à venir.
N'ayez pas peur. Docteur Sibilia, est-ce que vous préconisez le vaccin contre la grippe pour tous ?
Oui, il faut vacciner cette année. Hein. Alors, il faut rappeler quand même que l'an dernier, la grippe n'avait pas fait trop de dégâts. C'est une observation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en fera pas cette année. Vous savez que ça change, la grippe, ça varie d'une année à l'autre.
Et le virus n'est pas encore arrivé chez nous ?
Pas encore. On n'a pas d'identification encore définitive du virus, parce que le virus de la grippe, vous savez, contrairement au Covid, le virus de la grippe mute beaucoup, il change beaucoup. Donc d'ailleurs, ne comparez pas le virus Covid-19 et le virus de la grippe. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est des virus complètement différents, même s'ils touchent tous les deux le poumon. Enfin, ils donnent des signes respiratoires. Mais c'est très différent. La grippe est une maladie qui peut être grave. Faut pas l'oublier, elle donne, comme le Covid, des signes respiratoires. On a un vaccin qui est efficace, voire très efficace, pas chaque année, mais j'espère qu'il le sera. Il faut l'utiliser plus qu'avant, encore cette année. Sachant qu'aussi, on sera protégé, l'application des mesures barrières va nous protéger contre Covid-19, mais nous protégera aussi contre la grippe. Mais il vaut mieux ceinture et bretelles cette année, c'est-à-dire bien appliquer les mesures barrières et bien appliquer la vaccination antigrippale, a fortiori dans toutes les populations à risque, c'est-à-dire les sujets âgés, les sujets obèses, tous les sujets qui ont des pathologies X ou Y. Il faut vraiment, et même au-delà de ça, tous les soignants, voire en population générale, plus on bloquera la grippe, plus on limitera le risque sur le système de santé. Et pour vous faire vous convaincre que c'est nécessaire, il y a même quelques arguments pour penser que les gens vaccinés contre la grippe font des Covid peut-être moins sévères. Peut-être. Je reste très prudent, même si ça n'a rien à voir, mais le fait d'avoir une vaccination contre la grippe donne une sorte de protection un peu globale, faible, mais un peu globale, contre d'autres virus, peut-être contre Covid-19.
C'est une hypothèse.
Là aussi, la crise Covid nous a appris, et c'était mon rôle, je l'ai dit depuis le début, à dire ce que l'on appelle une hypothèse et ce que l'on appelle une certitude. C'est une hypothèse et pas une certitude. Ne mélangeons pas les deux. La rationalité est importante, sinon les gens ne comprennent plus rien. Donc il y a des choses qui sont envisageables et des choses qui sont documentées.
Et le virus du Covid a évolué depuis la première crise sanitaire? Est-ce qu'il est moins dangereux ou pas?
Alors, on va être très simple. Non, il n'a pas évolué de façon significative. Mais pour que ça soit là aussi clair pour tous ceux qui écoutent, c'est un virus qui mute, comme tous les virus. Vous imaginez le nombre de virus, de transmission de virus sur la planète, ça a été des milliards et des milliards de particules virales. Donc, elles ont muté, ces particules virales. Mais le virus Covid, il a une petite astuce, il se répare lui-même. Contrairement à d'autres virus, il sait se réparer. Donc, s'il y a mutation, il la répare lui-même. Donc, in fine, les mutations qu'il y en a eu, il y en a eu un grand nombre, elles ont été réparées en partie, et de toute façon, elles n'ont pas modifié significativement le virus que l'on rencontre aujourd'hui, même s'il y a des variants. Parce que j'ai entendu des gens du Sud dire qu'il y a 4 variants, 5 variants. Oui, mais il faut tout dire dans ces cas-là. Oui, il y a des variants, mais le résultat final, en contagiosité et en gravité, il n'a pas beaucoup changé.
La seule solution, ce sera le vaccin?
C'est pas la seule, mais je pense qu'il y a 3 solutions. Il y a l'acquisition progressive d'une immunité de la population. C'est assez simple. Je ne sais pas combien on est d'immunité dans la population, mais on avait acquis en Alsace à peu près, autour de 10% de la population qui avait vu le virus. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, mais probablement qu'on ne doit pas être loin de 20%, peut-être de 25%. Et à terme, on aura un petit tiers de la population. Ça veut dire quand même que chaque fois que le virus est présent, il va, une fois sur 3, trouver une impasse. Parce que tous les gens qui ont été infectés dans les derniers mois, sauf exception, sont protégés. Il y a des exceptions, hein. Il y a quelques réinfections, mais elles sont extrêmement rares. Donc globalement, quand vous avez fait l'infection, vous êtes protégé durablement pendant quelques mois, peut-être quelques années. Donc plus il y aura de gens infectés, et quand même là on voit que le virus circule, plus le virus va tomber contre des murs et des impasses. Évidemment, le jour où la moitié ou plus de la moitié, 50, 60, 70% de la population a rencontré le virus et est protégé, le virus, il a du mal à circuler et il disparaît. Ça, c'est la première. Mais le problème, vous avez calculé, 10% la première vague, 10% la deuxième vague, ça fait que 20%. Il faudrait une troisième, quatrième, cinquième, sixième vague. Ça nous mènerait trop loin. Ça nous mènerait à 2-3 ans. C'est pas raisonnable. En tout cas, il faut pas.
Vous pensez que l'immunité, on l'a déjà développée de manière plus importante en Alsace?
Difficile à dire, mais je pense que on a bien mesuré à l'issue de la première vague, bien mesuré, avec quelques approximations, autour de 10% de la population qui est probablement protégée. Là, je pense qu'on a probablement, on doit pas être loin de 20%, mais on n'a pas le chiffre encore. On va l'avoir au fil de l'eau, hein, mais on devrait. Mais 20% n'est pas 60. Hein. Donc, on peut pas attendre. Et donc, les solutions, il y en a 2. C'est le vaccin, qui arrivera en 2021, mais pas avant. Je le dis depuis longtemps, beaucoup d'experts l'ont dit, il faut être prudent. Un vaccin, ça se construit pas comme ça, avec un claquement de doigts. Il faut le tester, il faut le préparer, il faut qu'il marche, il faut qu'il soit bien supporté. 2021 ou plus tôt, mais c'est pas mal. Si on l'a en 2021, ouais, on sera heureux de l'avoir au courant du premier semestre 2021, d'avoir un des vaccins, parce qu'il y en aura évidemment plusieurs. Et la deuxième chose en matière de thérapeutique, on va quand même progresser. Il n'est pas exclu qu'on puisse découvrir dans l'intervalle des thérapeutiques antivirales efficaces, plus efficaces que celles qui ont été évoquées, qui ne le sont pas, il faut le dire, l'hydroxychloroquine n'est pas efficace. Voilà, il faut être courageux et dire que non, malheureusement, ça fait de la peine à beaucoup de gens, mais et moi le premier, parce que j'aurais préféré que ça soit efficace, ça ne l'est pas. Les autres antiviraux ne sont pas très efficaces. Alors on peut donner, comme à Trump, Donald Trump, des cocktails d'anticorps monoclonaux, mais ça, c'est pas envisageable en masse. Donc on trouvera peut-être des antiviraux en complément du vaccin. Et puis en dernier lieu, là aussi, rendre hommage à mes amis réanimateurs et les gens qui prennent en charge les malades les plus graves, il y a eu des progrès considérables. Aujourd'hui, on a divisé par 2, par 3 la mortalité. C'est en réanimation, grâce à la qualité de nos équipes. On a des équipes À Strasbourg, c'est 16% de mortalité en réanimation à Strasbourg. Moi, bravo nos réanimateurs, parce qu'ils ont un engagement invraisemblable. Ils ont compris, on sait mieux ventiler les malades, on sait les anticoaguler, on sait mettre des antibiotiques quand il faut, et on sait mettre de la cortisone quand il faut, mais quand il faut. Attention à ne pas bricoler avec ces médicaments, notamment la cortisone. Hein. La cortisone, ça se bannit dans le Covid, dans des conditions très particulières. C'est pas cortisone pour tout le monde, hein, comme je l'ai entendu, surtout pas. Donc on sait faire ça, on a compris, et ça, c'est des faits. Voilà, c'est pas des spéculations intuitives des uns et des autres, c'est des faits. Ça, on sait, et on a vraiment amélioré la prise en charge des malades. Ça n'empêche pas au virus de se transmettre, ça n'empêche pas aux gens de faire des formes graves, mais quand ils font des formes graves, on arrive à en sauver beaucoup plus qu'avant.
Oui, ce sont les corticoïdes, la cortisone, c'est ça qui a permis de faire de nombreux progrès pour la prise en charge.
Que dans les formes graves.
Que dans les formes graves.
Il faut le rappeler, parce que là aussi, il y a un raccourci qui n'est pas pédagogique, hein, et notamment de la part de la presse. On a dit la cortisone, ça sauve les malades que quand ils sont très graves. Quand vous donnez de la cortisone, ce fameux médicament, la dexaméthasone, pour ne pas la citer, celle qui a été l'objet d'études, l'étude anglaise notamment, si vous la donnez trop tôt, elle est délétère. Elle aggrave la mortalité parce qu'elle favorise la réplication du virus. Si vous la donnez au moment de l'inflammation pulmonaire pour les malades graves, au contraire, elle réduit la mortalité de plus de 30%. Donc vous voyez, la médecine n'est pas une science exacte. La médecine, c'est un art difficile et il faut utiliser les outils au bon moment et pas n'importe comment.
Et docteur Sibilia, donc en tant que doyen de la faculté de médecine, pour revenir maintenant à un sujet hors Covid, est-ce que vous pourriez me faire un tour d'horizon où l'Alsace se distingue en matière d'offre de soins et m'indiquer également les domaines où ça pêche, hein, où des efforts doivent être faits pour une meilleure prise en charge des patients? Ça, un petit tour d'horizon, c'est une question très générale, mais qui intéresse aussi les Alsaciens. Où est-ce qu'on est à la pointe et moins?
Alors j'aimerais dire qu'on est à la pointe en Alsace, hein, mais on est en Alsace très sensible à ça, il faut le reconnaître. Le territoire alsacien est un territoire qui a une culture, qui a une histoire, des racines, une solidarité très forte. Et notre territoire alsacien a une densité du système de soins qui est certainement très supérieure à beaucoup de territoires, beaucoup de régions. C'est l'histoire qui nous a permis de construire ça. On a des grands hôpitaux. Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Haguenau, même Saverne, ou des hôpitaux. On a de très grands hôpitaux, des hôpitaux périphériques d'excellente qualité sur un territoire qui, l'Alsace, n'est pas géographiquement de très grande taille. Hein. Les transports, ils sont très faciles, il faut le rappeler. Mais malgré ça, il y a des trous dans la raquette. Hein. Mais il y a aussi une organisation collective parce qu'il y a une densité médicale importante, des médecins généralistes extrêmement investis. Pour donner à la faculté, j'ai 300 maîtres de stage universitaires qui sont 300 médecins généralistes hein, qui sont engagés dans la formation sur les territoires. Donc on a un engagement quand même très fort. Bien sûr, il y a des trous dans la raquette. Bien sûr, il y a des villages où il n'y a plus de généralistes, où le généraliste n'a pas été remplacé. Bien sûr, il y a un délai d'attente pour voir l'ophtalmologue, pour voir le pédiatre qui est trop long. Il y a une amélioration évidente. Mais on a fait d'importants efforts, à la fois dans la formation médicale, on a plus que doublé le nombre d'étudiants en médecine en 12 ans, à moyen constant. Doublé. Et il reste généralement en Alsace. Hein. Alors, peut-être que ça ne suffit pas. On a mis en place des mesures pour créer des métiers intermédiaires, augmenter la compétence des infirmières, créer des métiers. On a créé des instituts paramédicaux. Et j'ai créé avec tout mon équipe une nouvelle faculté qui s'appelle médecine maïeutique sciences de la santé pour au contraire former plus de soignants, médecins et non-médecins, pour que l'Alsace puisse bénéficier d'une offre de soins pas meilleur qu'ailleurs, parce que on vit dans un pays, moi, je voudrais que tout le monde ait ça. Vous voyez, c'est pas, je suis alsacien avant tout, mais pas seulement. Voilà, on est citoyen du monde. On aimerait que ça profite à tout le monde, mais on va le développer là où on sait le faire, avec nos moyens. Donc, il y a eu d'importants efforts, parce qu'on travaille aussi, je crois, main dans la main avec les collectivités, avec la région. Alors, on a un président de région extrêmement présent, lui-même médecin, qui est quelqu'un de formidable.
Ça facilite les choses aussi.
Mais bien sûr, voilà, on peut le citer, Jean Rotner a été extrêmement présent. C'est quelqu'un qui a donné de sa personne, qui est toujours présent, toujours à l'écoute. Et c'est quand même un grand avantage pour notre région. Et puis des collectivités territoriales, que ce soit la municipalité, la métropole, que ce soit le département, toujours très investi dans les projets de santé, les projets de soins, avec l'État, représenté par le rectorat pour la formation, par la préfecture notre préfète et par l'ARS avec une nouvelle directrice et des institutionnels, le nouveau directeur du CHU Strasbourg qui est une personnalité aussi formidable. Je pense qu'on a vraiment, on a des atouts pour aller sur ça. Mais je reconnais, je peux vous dire, c'est pas simple parce que c'est compliqué dans l'état de défiance actuel, même en Alsace. Il y a une forme de peur, de défiance qui est naturelle et légitime. Ça n'est pas facile. C'est vraiment, je vous jure, une lutte quotidienne pour essayer d'améliorer les choses. Mais il y a un état d'esprit que j'espère on conservera en Alsace, qui est cet esprit de dynamisme, peut-être d'esprit citoyen collectif, pas dire meilleur qu'ailleurs, parce que faut pas le dire comme ça pour respecter les autres aussi, mais continuons dans cette démarche-là et montrons l'exemple. Et peut-être que l'exemple alsacien peut servir aux autres. C'est ce qu'on souhaiterait dans l'esprit de l'humanisme rhénan qu'on aime bien. Si on pouvait transmettre ça aux autres, ce serait parfait.
Il y a tout de même des maladies qui restent prédominantes en Alsace par rapport au reste du territoire. Alors, est-ce que c'est dû à des manques de dépistage parfois, ou alors, bon, c'est dû aussi au mode de vie des Alsaciens? On peut revenir sur ces quelques maladies qui sont vraiment prédominantes, oui. où l'accent est mis par les pouvoirs publics?
Oui, c'est clair. On a des particularités inquiétantes en matière de cancer. Vous le savez, il y a un bon nombre de cancers qui sont plus fréquents dans le bassin rhénan en Alsace pour des raisons probablement de facteurs favorisants, peut-être génétiques, mais aussi extérieurs.
Alors, c'est lesquels?
On les connaît, je ne peux pas vous les donner parce qu'il faut les analyser cancer par cancer. Chaque cancer a des particularités génétiques et d'environnement. Je prends l'exemple du cancer du poumon. Vous savez, on était une région avec une zone fortement minière dans le nord de l'Alsace et en Lorraine. Vous savez que tous les toxiques transmis par l'air entraînent des maladies pulmonaires, comme l'anthracose par le charbon, et toutes ces maladies pulmonaires, la silicose qui était aussi très fréquente, toutes ces maladies liées aux mines notamment ont entraîné un surcroît de cancer du poumon. Donc alors ça a disparu bien sûr en grande partie, mais il y a un certain nombre de facteurs favorisants qui étaient spécifiques de notre région, comme dans d'autres régions, on n'était pas la seule évidemment. On a un fort risque de maladies cardiovasculaires. Alors effectivement, on mange bien en Alsace, mais continuez à manger de la choucroute. Vous savez que la choucroute, c'est très bon. Le chou, c'est parfait pour l'inflammation et c'est parfait pour un nutriment extrêmement protecteur. Mais il y a d'autres choses, malheureusement. Et c'est vrai qu'on aime bien manger en Alsace. Et ça participe, pas que, mais ça participe au risque cardiovasculaire. On a quelques particularités. Et là, je crois que la façon de le traiter, elle est comme toujours double: prévention, pédagogie. PEP et participation des citoyens et des patients à cet effort-là. La médecine de demain, elle doit être beaucoup plus participative, beaucoup plus préventive et prédictive qu'elle n'est. Aujourd'hui, on dit qu'elle est curative, c'est-à-dire on vous soigne quand vous êtes malade. C'est intéressant, alors on soigne très bien parce qu'on est un des pays au monde où on a la plus grande survie. On vit très très vieux en France et en Alsace, mais en France. Par contre, on vit vieux, mais on ne vit pas forcément longtemps en bonne santé. Et c'est ça la différence. Et demain, je pense que la médecine de demain, ça doit être le cas en Alsace et ailleurs, c'est essayer d'être plus prédictif, préventif, participatif pour éviter que la maladie arrive et que l'handicap de ces maladies arrive. Et on a d'ailleurs, pour vous donner un exemple très précis, vous montrer le dynamisme alsacien, un grand projet avec notre hôpital et toutes les collectivités, qui est un institut européen des maladies inflammatoires, dont le siège sera à Strasbourg. Cet institut s'appellera Pacifique. Et l'objectif annoncé de cet institut, qui doit être vraiment quelque chose de très important, c'est de faciliter la médecine préventive et prédictive avec tous les outils que la science peut nous donner. Je pense que c'est ce que les gens attendent. On préfère utiliser des méthodes préventives que de prendre des médicaments. C'est assez logique. Mais c'est bien de prendre des médicaments aussi quand on est malade. Il n'y a pas, malheureusement, pas toujours le choix.
Très bien. On en restera là sur ces mots, sur la médecine de demain. Merci beaucoup, docteur Sibilia, pour ce podcast. L'essentiel, c'est la santé. Merci.
Merci beaucoup.